Eh, ça faisait un bon petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour blablater sur l'actualité formulanesque et qu'on s'était pas retrouvé perdu au milieu de... J'espère que quelqu'un va me retrouver, je sais pas où je suis. Et surtout, ça place le contexte intersaison hivernale, tu vois. Donc je me dis, on est bien au chaud, enfin toi j'espère que tu l'es parce que moi pas. Pour commencer cette petite review de saison, un peu pilote par pilote, je me suis dit que j'allais tenter un petit peu d'aborder plusieurs angles à la fois. Et pour commencer, bah, autant commencer par les trucs qui seront finalement des sujets plus ouverts à la discussion pour des polémiques. Disons des polémiques, puisqu'on va parler du côté des rookies, et particulièrement des rookies pour qui ça ne s'est pas très bien passé cette saison. Je pense que il n'y a personne autour de moi. Enfin, pour le moment, j'espère qu'on ne va pas me dégager. Mais il n'y a personne autour de moi, donc je pense pouvoir dire sans trop me risquer que Logan Sargeant, Nick DeVries, ça s'est pas très bien passé pour vous, les potes. Enfin, si vous me permettez de vous parler comme ça, particulièrement pour Nick DeVries, je commençais avec le pilote néerlandais parce que 10 Grands Prix et puis s'en va. Ça a été un parcours assez absurde, hein, le genre de truc qu'on n'a pas vu en Formule 1 depuis Sébastien Bourdais, peut-être, j'ose dire. DeVries arrive quand même avec pas mal d'attentes. C'était un pilote, ma foi, tout à fait capable, qu'on a vu évoluer dans les catégories inférieures, qui a mis un petit peu de temps à se développer. C'est pour ça qu'à l'époque, avec McLaren, finalement, ça n'avait pas trop marché. Il faisait partie de leur académie. McLaren ne l'a pas tant foutu à la porte. C'est juste qu'ils lui ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas l'intention de lui donner sa chance en Formule 1 dans l'immédiat. Et il a préféré suivre sa voie de son côté, ce qui n'a peut-être pas été plus mal non plus. Ça l'a un petit peu libéré, laissé aller gagner le titre de Formule 2. Et outre cette saison 2019 qui n'était pas très compétitive, il avait montré des choses déjà extrêmement sympathiques en 2018, face à Russell, Albon et Norris. Il était dans ce petit groupe, donc on pouvait comprendre qu'il y avait une certaine attente autour de lui, de se dire « c'est dommage qu'il ne soit pas en Formule 1 ». Il a eu sa chance, comme quoi il ne faut pas laisser tomber la Formule 1. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec l'arrivée de DeVries, ça a prouvé qu'on peut toujours y arriver, même quand la Formule 2 ne nous donne pas cette porte d'accès immédiate. Un petit peu d'espoir pour Felipe Drugovic, Frédéric Vesti ou Théo Pourchaire. Faut dire qu'après ce superbe Grand Prix de remplacement qui nous a fait chez Williams en 2022, il y avait pas mal d'attentes autour de lui, peut-être même beaucoup trop, j'ai trouvé, surtout dans le clan Helmut Marko qui du coup, bah, c'est lui, il voulait son Nick DeVries. Je me demande même s'il n'y avait pas un petit peu de « vas-y que je te le pique à Mercedes » pour montrer que moi, je peux foutre les pilotes en Formule 1. Je me demande s'il n'y avait pas un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, immédiatement, il y a eu des déclarations assez osées, j'ai trouvé, de dire qu'il s'attendait à ce que ce soit le meneur de AlphaTauri. Reléguant, j'ai trouvé de manière un petit peu irrespectueuse Yuki Tsunoda à un second rôle, puisqu'on en parlera pour Tsunoda, mais je trouvais que c'était assez injuste après une saison 2022 qui était pas mal de le couper tout de suite dans son élan. Et du coup, bah, ça s'est pas bien passé pour DeVries. Il avait du mal, beaucoup beaucoup de mal, particulièrement en rythme de course. En qualification, les écarts avec Tsunoda étaient, j'ose dire, tolérables pour un rookie. N'oublions pas que même s'il y a toute cette expérience de champion du monde de Formule 1, ça reste un pilote qui, comme je le disais, tout à fait capable. Mais la Formule 1, c'est aussi un milieu où la transition est parfois assez difficile. On oublie que c'est pas juste qu'une question de pilotage et que c'est aussi une question de se mettre à l'aise dans l'équipe, de trouver des bons réglages. Et je pense que pour DeVries, c'est là vraiment que ça a pêché, parce qu'on avait une AlphaTauri qui était une voiture extrêmement médiocre en début de saison du moins, et DeVries qui n'y parvenait pas à extraire le maximum. Donc voilà, 3-4 dixièmes en moyenne d'écart avec Yuki. Je me disais que c'était pas mal, surtout que Yuki avait démontré qu'en qualification, sur les deux dernières saisons, il pouvait être très proche de Gasly dans ses bons jours. Voilà, en rythme de course, c'était assez moche en général. Il s'effondrait. Les luttes en roue contre roue étaient rares, et quand il y en avait, c'était... on ne le sentait pas du tout en confiance. Il y a eu notamment, de façon assez remarquable, deux petits cacas avec Kevin Magnussen au Canada et en Autriche. L'interrompre si rapidement, j'ai trouvé que c'était cruel. C'était cruel parce que c'était pas en temps justifié en soi. On peut se dire que le pilote avait encore une belle marge de progression. Il l'a démontré dans toutes les catégories où il est passé. Ceci étant dit, du point de vue de Red Bull, avec le recul qu'on n'avait peut-être pas l'an dernier, je comprends Christian Horner qui n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de prendre De Vries dans l'académie, parce que c'est vrai que il apporte rien fondamentalement à l'image Red Bull en tant que telle. Il apportait rien puisque c'était pas tant un jeune montant. Hein. On parle beaucoup du fait qu'il était justement plus très jeune. Donc il y avait assez peu de pertinence à l'idée de le promouvoir en Formule 1 du côté du clan Red Bull. Il y a eu des erreurs, il y a eu plein de choses qui pour moi justifient qu'on s'est dit « Allez, ça vaut même pas la peine de continuer », même si c'était très tôt dans le parcours. On s'est dit « Ça sert à rien de patienter pour lui ». Et c'est peut-être tout l'inverse du cas de Logan Sargeant chez Williams, qui vient d'être prolongé. La news est tombée. Maintenant, ça va faire quelques jours, peut-être au moment où ça sortira.
Alors, j'avais pas prévu que juste après ce tournage, j'allais me taper 2-3 semaines d'hôpital et des obsèques. Donc voilà, il y a un peu de retard. Bisous.
Pour le coup, Logan Sargeant, je suis tout pour lui laisser une seconde saison. Au même titre que j'aurais compris que le management Williams se dise « Allez ». On laisse tomber, on va aller chercher peut-être un Frédéric Vesti, aller continuer à faire l'œil doux avec Mercedes pour peut-être gratter quelques pépettes sur le partenariat moteur et toutes ces choses, et promouvoir un jeune qui est très intéressant, Frédéric Vesti. Logan Sargeant, pour moi, c'est un pilote, à l'instar de Yuki Tsunoda, qui est arrivé beaucoup, beaucoup trop vite en Formule 1. Parce que Logan Sargeant, c'est un pilote qui a démontré qu'il avait un beau potentiel en catégorie inférieure, un beau potentiel souvent dans des équipes qui n'étaient pas des équipes très réputées en catégorie inférieure. Il n'avait pas ce que des pilotes comme Yuki, comme Piastri ont pu avoir, à savoir un encadrement professionnel, et c'est vraiment ce qui lui manquait. Alors, il était dans l'Académie Williams, mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le nom Williams, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que l'équipe n'est clairement plus ce qu'elle a été par le passé, et son Académie Junior a rarement été particulièrement efficace. Elle est presque là pour faire le nombre comme les autres, hein, je trouve. Et du coup, vu qu'on avait, je vais y revenir plus tard là-dessus, pour rester sur le parcours junior de Sargeant, il lui manquait un petit peu tout ça, cet encadrement vraiment professionnel. Et lorsqu'il a fait ses débuts en Formule 1, c'était à Austin en 2022, si je ne dis pas de bêtises, en essai libre 1, c'était vraiment, vraiment ses toutes premières fois en Formule 1. On a senti un clair manque de préparation. Cela dit, il a très bien piloté. C'était pas le souci, mais on sentait qu'il y avait un manque de confiance et qu'il n'était clairement pas prêt. Ce qui me faisait dire qu'il n'était vraiment pas prêt, c'est qu'on a eu de nombreux pétages de câbles, si je peux les qualifier comme ça, en catégorie inférieure. Il y a eu notamment la finale en 2020 au Mugello de Formule 3, où il jouait le titre face à Oscar Piastri, Théo Pourchaire. Et il se fout dehors. On a eu le cas également en Formule 2 l'an dernier, lorsque on était à Spa et qu'on commençait un petit peu à le voir comme un potentiel successeur à Latifi en F1. Il était sur une bonne dynamique, il avait gagné en France, ou à Silverstone, je ne sais plus des mémoires, mais il avait fait une belle victoire. Et pareil, il se fout dehors, et il y a un pilote qui l'a démontré cette saison, et on va y revenir, un pilote qui manquait clairement de stabilité, je pense, d'un bon encadrement psychologique. Son arrivée en Formule 1 a été forcée. Je pense que personne ne dira le contraire. À aucun moment, on s'est dit Logan Sargeant est là pour pousser Alex Albon, pour pallier ce que Nicolas Latifi était incapable de faire. Non, il était clairement là parce qu'il n'y avait personne d'autre à mettre dans cette voiture. Personne ne voulait vraiment aller chez Williams. Et parce qu'on a vu ce que c'était, hein, l'année d'avant, c'était très, très catastrophique chez Williams. Et on n'avait vraiment personne de particulièrement intéressant. On s'est dit, autant promouvoir notre jeune de l'Académie Williams. C'est un pilote américain, donc ça peut motiver un petit peu d'attention médiatique du côté de d'Orlton Cabell à la tête de Williams. Médiatiquement, c'est un fail parce que les Américains s'en tamponnent le coquillage de Logan Sargent. Et pour le déroulement de sa saison, je disais que pour moi, ce manque d'encadrement psychologique se ressent pas mal parce qu'on a eu une saison encéphalogramme très 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 dynamique. On a eu une très bonne première course à Bahreïn. Il est dans les temps de Albon en rythme de course. Et globalement, ses rythmes de course sont très bons sur la saison. Quand on les compare à Albon, ce qui lui manque, c'est du rythme pur. Et quand il faut pousser la voiture, c'est là où il galère un peu. Mais sur un rythme de course global, il est pas mal. Donc, c'est ce qui, je pense, a un peu motivé James Vowles à se dire « on va lui laisser une nouvelle chance parce qu'il mérite, enfin, il y a un potentiel ». Mais après cette bonne première course à Bahreïn, il y a eu une série de tête à queue crash en Arabie Saoudite. Et à partir de là, la confiance a chuté de manière assez importante. Quand il a retrouvé une voiture avec laquelle il était à l'aise à Silverstone, il est parti sur une très bonne dynamique. Il a fini pas loin des points. Et ensuite, il y a eu ce crash à Zandvoort en Q3, sa première Q3. Au final, il avait fait l'essentiel du boulot, on dira. Mais quand même, je pense que ça l'a pas mal impacté. Le lendemain, en course, il y a eu ce nouveau crash qui apparemment était dû à un problème hydraulique. Donc là, il ne peut rien faire. Mais on a ressenti dès le Grand Prix suivant, à Monza, qu'on avait retrouvé un Sargent qui n'était plus en confiance. Et ça a continué avec des erreurs à droite à gauche, un rythme qui n'était pas bon. Et il a fallu qu'il remonte dans les points aux États-Unis après 30 milliards de disqualifications et d'abandon pour qu'on commence un peu à le retrouver en confiance. Donc, un pilote qui marche peut-être trop sur une dynamique assez instable, je trouve. Mais perso, je rejoins tout à fait le concept de lui laisser une seconde saison en Formule 1. Je pense qu'il a prouvé par le passé qu'il la méritait et au-delà de la mériter, qu'il pouvait se prouver d'être un pilote qui peut apporter des résultats sur le moyen long terme. Je ne pense pas que c'est un pilote qui aura la capacité d'embêter Alex Albon sur toute une saison, mais sur quelques Grands Prix, commencer à le pousser un petit peu plus parce qu'on a vu qu'il en était capable. Et ce qui lui manquait, c'était de la précision. Hein. Combien de fois il faisait des très beaux temps, mais son temps était annulé en qualif parce qu'il y a eu ce moment où il a foutu une roue de trop hors des limites. Donc, de la maturité, de l'intelligence et de l'expérience, c'est ce qui lui manque. Il a 20 ans, on lui laisse du temps et espérons que ce sera mieux. Je vois qu'on ne m'a pas encore foutu dehors, donc je vais continuer à parler. Normalement, je crois que je suis dans un endroit public, donc ça devrait aller. Hein. Et si le soleil, il se barre très vite.